Je vais laisser la parole à Catherine Boutin de l'INRAE Lyon qui va nous parler des zones de rejet végétalisées. Catherine, je te laisse partager ton écran. Et après, comme ça, on aura le temps, en fin de toutes les présentations, de revenir sur ces questions. Super, parfait.
Vous m'entendez?
Parfait, son et image, c'est parfait.
Bon, bonjour à tous. Et ben voilà, là, ce que tu viens de dire, là, Frédéric, est tout à fait enfin, voilà, une liaison avec le propos que je vais pouvoir vous présenter sur les zones de rejet végétalisées. Donc, merci à tous de me proposer un résumé de ce qu'on a pu acquérir sur la thématique des zones de rejet végétalisées. Donc, j'ai appelé ça un exemple de SFN, Nature-Based Solution, utilisé dans le domaine du traitement des eaux usées. Donc, je voulais vous proposer le plan suivant, vous redonner un petit historique, une introduction, puis une petite historique de l'usage de ce qui pourrait être appelé maintenant des zones des SFN pour le traitement des eaux usées. Je vais vous parler des zones de rejet végétalisées en insistant non pas sur les résultats, mais surtout sur les définitions. Puis, dans la mesure où on m'a demandé de parler de gestion patrimoniale, ben, j'ai plutôt axé sur les suivis et les méthodologies de suivi qu'on a utilisées. Et puis, je vous donnerai ben, quelques éléments de conclusion, de réflexion. Donc, pour démarrer cet exposé, pour me mettre dans le bain de cet exposé, moi, je me suis replongée dans un document des Nations Unies qui s'appelle Les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau, qui date de 2018. Et ben, j'ai été assez surprise de voir que dans le tout premier paragraphe résumant le document, effectivement, donc on parlait des solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau. Et donc, pourrait par exemple viser la réalisation de processus naturels dans les écosystèmes, donc on parlait de système, écosystèmes modifiés ou artificiels. Et il est mentionné tout de suite la partie épuration, puisqu'on dit dès le début qu'elles peuvent être appliquées à l'échelle micro, par exemple pour une toile sèche, ou à l'échelle macro pour un paysage. Donc, dans ce sens-là, il semblerait que les SFN puissent s'appliquer au traitement des eaux usées. Il nous est dit aussi que les SFN soutiennent une économie circulaire et entendent promouvoir une plus grande production des ressources dans le but de réduire la production de déchets, de réduire la pollution grâce à la réutilisation et le recyclage. Donc, on est dans une logique de réduction de la pollution et de pousser à la réutilisation au sens large, donc aussi des eaux usées traitées. Et les SFN présentent de nombreux avantages biennaux et permettent de résoudre simultanément, donc on voit bien les notions d'objectifs simultanés dont on a parlé depuis une journée. Et donc, simultanément, des questions qui sont liées à la quantité, la qualité et les risques liés à l'eau. Et donc, un autre avantage clé des SFN réside dans leur capacité à contribuer à la construction d'une résilience générale du système. Donc, on retrouve bien les différents points et moi, je vais m'attacher dans la partie zone de rejet végétalisé à raisonner à la fois sur la quantité et la qualité et on verra un petit peu la partie risque. Donc, en termes d'historique, alors je fais ça vraiment rapidement. Effectivement, le lagunage naturel s'est développé dans les années 80, très 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 largement, ça date des années 70. Donc, le principe, c'est des bactéries libres qui se développent dans des tranches d'eau avec les algues qui génèrent de l'oxygène par l'intermédiaire de la photosynthèse. Simultanément, on a eu des systèmes d'épandage souterrain sur sol en pierre, donc filtre à sable en assainissement non collectif. Ça date à peu près de la même époque. Je vais très rapidement. Puis, dans les années 2000, le filtre planté de roseaux a pris vraiment de l'ampleur. Et donc là, juste pour fixer les grandes lignes, donc là, on est avec un système de bactéries fixées avec des écoulements non saturés. Donc, on est deux systèmes qui pendant longtemps semblaient un peu équivalents, mais qui sont sur des principes d'épuration relativement, relativement différents. Ce que je voulais dire là, c'est que là, on est vraiment dans un cadre station d'épuration qui répond à des objectifs réglementaires, donc qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. Effectivement, les bases de dimensionnement sont plutôt empiriques. Et ce sont des systèmes qui sont très largement développés pour le monde rural. Pourquoi? Parce que l'exploitation qui était nécessaire pouvait être réalisée par un personnel qui n'avait pas de formation spécifique. Donc, les personnels communaux avaient possibilité d'entretenir avec des notions de type jardinage, des lagunages et même des filtres plantés de roseaux. Progressivement, et on voit que cette notion, de plus en plus de collectivités n'ont plus d'exploitation en direct, et donc c'est fait par des personnels qui sont formés à ces techniques-là. Mais à l'origine, c'était fait pour un personnel communal simple pour réduire les coûts d'exploitation. Maintenant, c'est dans les. Enfin, après, je n'ai pas fait une recherche extensive, mais c'est vrai qu'il y a un document qui date des années 2000 et qui questionne sur clairement les zones humides et le traitement des eaux usées. Donc, l'apparition des zones humides et du traitement des eaux usées date de ces époques-là. Et il y a eu un questionnement, justement, puisque les zones humides disparaissaient. Et donc, il s'est posé la question de savoir comment le traitement des eaux usées pourrait contribuer à réhabiliter les zones humides. Simultanément, depuis les années 2000, donc les filtres plantés de roseaux ont pris largement de l'ampleur. Alors là, je l'ai fait rapidement, mais donc sur la base de grands principes d'épuration, le filtre planté dédié à l'eau usée domestique, c'est ouvert à d'autres domaines d'application, donc le traitement des boues, le surface de déversoir d'orage, des eaux usées industrielles, l'adaptation au climat tropical, les variations de charge, et j'en ai sûrement oublié. Et donc là, les règles de l'art des ouvrages étanches sont établies ou en cours de lettre, avec dans bien des cas, ces ouvrages-là sont réalisés de sorte à ce qu'il n'y ait pas de matériel supplémentaire qui contribue à réguler les processus. Donc, effectivement, on est dans un équilibre, et un équilibre relativement fin, et qui doit le rester, d'autant qu'on n'a pas d'action facile ou d'action chimique, ou d'action par l'intermédiaire de l'oxygénation, etc., pour rétablir un système qui pourrait se mettre en dysfonctionnement. Et donc, les zones de rejet végétalisées sont arrivées dans les années 2005-2010 à peu près. Donc, j'en viens aux propos sur les zones de rejet végétalisées. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une zone de rejet végétalisée? Donc, le terme est clairement défini dans l'arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations d'épuration. On nous dit que c'est un aménagement entre la station d'épuration et le milieu réceptacle. C'est un aménagement qui ne fait pas partie du dispositif de traitement, mais qui est dans le périmètre de la station d'épuration. Donc ça veut dire que les ouvrages, les objectifs de qualité sont clairement à l'aval de la station d'épuration et non pas à l'aval de la ZRV. Et ça veut dire aussi donc, que l'autosurveillance, enfin, au niveau de l'autosurveillance, on nous dit bien que le matériel de contrôle se fait à l'amont hydraulique des dispositifs. Et donc, on est bien. La station d'épuration, c'est une zone supplémentaire de sécurité, mais les objectifs de qualité restent ceux qui sont à l'aval de la station d'épuration. Donc, cette définition, dans le cadre de l'atelier ZRV d'EPNAC, on a contribué à la rédiger. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait différencier les zones de rejet végétalisées d'autres types de zones. Et c'est à partir de là qu'on a rédigé ce petit 4 pages où on voit bien que les zones de rejet végétalisées sont des ouvrages artificiels qui portent parfois le nom de zones de rejet intermédiaires, qui portent parfois le nom de zones humides artificielles, qui Les techniques consistent en des bassins, des fossés, des noues, des prairies ou autres. Donc, on trouve des vocabulaires dont on a déjà entendu parler. Et que le domaine d'application, c'est les zones de rejet, enfin, c'est des eaux usées traitées. Et on a défini dans ce document-là qu'est-ce que c'était que les zones humides, qu'est-ce que c'était que les autres ouvrages qui sont les dispositifs d'infiltration, des zones tampons ou des techniques alternatives végétalisées dont on a parlé relativement longuement aujourd'hui. Et donc, une zone humide n'est pas une zone, une, pardon, une ZRV n'est pas une zone humide. Les zones humides sont clairement définies par le code de l'environnement. Elles sont répertoriées. Et donc, les zones humides ne reçoivent que des eaux météorites, mais ne reçoivent pas des eaux usées traitées. Un dispositif d'infiltration n'est pas une zone de rejet végétalisé, ce n'est pas la même réglementation, il n'y a pas les mêmes obligations de suivi, il n'y a pas les mêmes obligations de résultat. Une zone tampon s'applique au domaine agricole et une technique alternative végétalisée s'applique à des épisodes pluviaux, à des eaux météorites et on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes bases de dimensionnement. Donc moi, je vous parle clairement des zones de rejet végétalisées et des résultats qu'on a pu avoir dans le cadre du programme dont on avait la charge au niveau d'INRAE. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ZRV? On a distingué deux grands types de ZRV, celles qui sont réalisées sur sol en place et celles qui sont avec des matériaux rapportés. Et donc, sur sol en place, on fait un distinguo en fonction du creusement du sol. Donc, soit le sol en place n'est pas du tout creusé et on disperse l'eau à la surface du sol, soit le sol en place est creusé en forme de bassin ou bien en forme de fossé qui s'apparente aux noues avec des ratios longueur sur largeur. Donc, c'est des géométries qui sont différentes. Et la nomenclature des ZRV, on a fait exprès de la changer par rapport à la nomenclature. Par rapport à la nomenclature des techniques alternatives. Donc, on parle de prairies, bassins et fossés. Et puis, on a des systèmes autres avec des matériaux rapportés qui peuvent s'apparenter à des filtres, à des fossés drainants, etc. Dans chaque fois, on a trois compartiments qui sont l'eau, le sol et les végétaux, avec une absence d'outils électromécaniques qui contribuent à réguler les processus épuratoires. Donc, les objectifs attendus aux ZRV, là, on n'est pas enfin, on est vraiment sur du multi-objectif. Donc, on a très très nombreuses attentes des différentes parties prenantes. Et chaque fois, c'est avec l'impérieuse nécessité de maintenir la qualité d'eau usée déjà traitée, puisque l'objectif de qualité est issu de la station d'épuration. Et donc, c'est des systèmes qui sont beaucoup développés, donc je vous disais, il y a une quinzaine d'années maintenant. Pourquoi est-ce que les polices de l'eau incitaient à ce qu'il y ait, en période d'étiage essentiellement, des réductions des volumes rejetés vers le milieu récepteur pour réduire justement la quantité de pollution par rapport à ces débits d'étage relativement faibles? Simultanément, on a voulu améliorer la qualité du rejet. Alors, est-ce qu'on raisonne sur les matières en suspension? Est-ce qu'on raisonne sur les phosphores et l'azote et sur quelle forme? Est-ce qu'on raisonne sur les germes témoins de contamination fécale? Est-ce qu'on raisonne sur les micropolluants, les métaux? Donc, on a de nombreux paramètres sur lesquels on peut avoir un objectif. On peut chercher aussi à valoriser la biomasse végétale. On cherche une intégration pégétaire, une création de biotope, une acceptation sociale de la station d'épuration. Et cet argumentaire-là est. Et comment les maîtres d'ouvrage sont relativement friands de ça et souhaitent verdir, entre guillemets, leur station d'épuration. Et puis, il y a aussi un complément où on peut avoir des réductions de coûts d'investissement, des réductions de coûts de canalisation et de travaux sur berge, puisqu'en créant un continuum terrestre entre la station d'épuration et le milieu hydraulique superficiel, mais il y a peut-être moins de travaux un peu durs et qui sont moins coûteux. Et puis, il y a sûrement d'autres argumentaires qu'on a oubliés, mais on voit ici qu'il y avait un grand, grand nombre d'attentes sur ces ZRV. Et donc, c'est dans ce cadre-là, de 2013 à 2018, il y a eu un gros programme de travail INRAE-OFB qui a mobilisé un grand nombre d'agents INRAE, les agences de l'eau, des collaborations sur Bordeaux avec l'INSA, le NDPE, et puis l'atelier ZRV du groupe de travail EPNAC, dans l'objectif de fournir des éléments de conception et d'exploitation qui permettent d'atteindre des objectifs définis. Donc, pour cela, on avait trois sites d'expérimentation. Un site dans la région bordelaise, construit de toutes pièces, qui comprend des prairies, des fossés et un système autre. Je ne rentre pas dans le détail. On a sur la région lyonnaise, sur la commune de Mionnet, on a trois lisimètres qui sont garnis de sols de différents, dont un lisimètre garni du sol de Bordeaux. Et donc ça, on est à l'échelle pilote. Et on a le projet Marguerite sur le côté de Nîmes Métropole, qui est une ZRV bassin en taille réelle, qui elle est étanche et qui s'alimente à une ZRV de type bassin. Et on a eu des compléments de données fournis par les SATES dans le cadre de protocoles établis à la fois sur la partie eau et sur la partie entretien par l'intermédiaire du groupe de travail EPNAC. J'en viens aux éléments méthodologiques. Je ne me rends pas compte si je suis en retard ou pas, mais voilà, on va te dire que tout va bien. Donc, les compartiments étudiés, on a le
5 minutes maxi, merci.
Tu as dit combien?
5 minutes maximum.
C'est bien. Donc, on a le compartiment eau où on compare l'entrée et la sortie et ça tout au long du traitement. On a le compartiment sol dans lequel on va évaluer la masse stockée dans le sol. On a les compartiments végétal dans lequel on va regarder la masse stockée dans le végétal. Et puis, on a le dépôt dont vient parler les collègues précédents. Et on va regarder aussi quelle est la masse qui est stockée dans les dépôts. Et donc, la méthodologie, c'est vraiment une méthodologie de bilan de matière pour répondre aux objectifs 1 que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire une réduction des volumes. Et l'objectif 2, une réduction des concentrations. Je me rappelle, sachant que dans les ZRV, on ne veut pas un accroissement de concentration, puisque l'objectif de qualité, il est à l'amont de la filière. Donc, dans le compartiment eau, on va faire assez facile, enfin assez rapide. Donc, il a fallu, avant de boucler les bilans sur la qualité, il a fallu la boucler sur la partie quantité. Donc, il a fallu mesurer sur les sites, les débits entrants, les débits sortants, mais aussi l'évaporation, la pluviométrie et l'évapotranspiration et les pertes par infiltration ont été estimées par différence. Sur la partie évolution de la qualité de l'eau, on a multiplié des mesures classiques au niveau de l'épuration et au niveau aussi pour les mesures des micropolluants. Pourquoi? Parce qu'en fait, une des difficultés de ce projet, c'était des mesures sur des très faibles concentrations. Donc, on est à l'aval de la station d'épuration qui est censée fonctionner bien. Et donc, du coup, on est dans les limites des seuils analytiques et des seuils méthodologiques. Et donc là, on a déployé plusieurs méthodes pour pour atteindre une conclusion qui correspondait effectivement à plusieurs résultats pour aboutir à une conclusion bien stabilisée. Sur la partie dépôt, vous voyez ici quelques photos. Donc, il a fallu faire des mesures de bathymétrie sur les dépôts dans l'eau. Et on a fait des mesures aussi sur les fossés. Et les boues sont parties en analyse chimique pour connaître leur qualité et leur évolution de la qualité dans le temps. Sur les végétaux, on a reproduit une méthodologie et là, effectivement, on est en multipartenaire et on a utilisé une méthodologie qui est celle utilisée dans les milieux naturels. Donc, on a échantillonné par cadra les différents types de végétaux qui étaient présents sur site pour réaliser les prélèvements. Simultanément, arrivé au laboratoire, on a séparé les tiges des feuilles les racines ont été nettoyées. Et donc, on a pesé en poids frais après séchage, donc en poids sec, les tiges séparément des feuilles, séparément des racines, qui sont parties en broyage avant de partir en analyse. Et donc, on a pu avoir des éléments sur les qualités de polluants stockés dans les différentes parties du végétal. Simultanément, on a regardé les surfaces de recouvrement de chaque espèce pour pouvoir avoir les pois frais, les pois secs, des masses de végétaux disponibles et donc aussi des masses de polluants stockées dans les végétaux. Au niveau du sol, c'est forcément l'instrumentation du sol qui a été la plus complexe. Donc, on a travaillé avec des lisimètres instrumentés qui sont l'équivalent de grosses carottes de 20 mètres de diamètre et instrumentées, donc posées dans le sol, garnies, je vous dirais, garnies de, il y en a un qui est garni du sol de Bordeaux. Les deux autres sont volontairement garnis de sol à faible perméabilité puisqu'on voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait aider à l'infiltration dans le sol du sol de faible perméabilité. Et donc, vous pouvez voir que le système étant instrumenté par l'intermédiaire de sondes potentielles, oxygène, tensiomètre, sondes d'humidité, on a possibilité de connaître les écoulements à l'intérieur du lisimètre. En même temps, sur le site de Bordeaux, il a été réalisé des suivis de résistivité à l'aide d'un tracin, ce qui a permis de voir l'impact du bulbe d'infiltration à l'intérieur d'un fossé. Et puis, donc, sur la partie qualité, la qualité des sols et des eaux dans le sol est récupérée donc à l'aval des lisimètres par l'intermédiaire d'un fond drainant. Et à Bordeaux, on a des bougies poreuses qui sont posées en râteau. Et puis, on a fait des prélèvements de sol et donc réellement dans les sols pour voir si oui ou non on avait des polluants qui étaient stockés dans les sols. Alors, un seul résultat au niveau des capacités du sol pour l'infiltration, une des premières. Une des premières conclusions, effectivement. Donc, on mesure les vitesses d'infiltration, mais ce qui est important, c'est la conductivité hydraulique. Et donc, du coup, on s'est rendu compte. Il a été quantifié de façon chiffrée l'importance des conditions limites et de voir combien l'infiltration, la capacité d'infiltration pouvait être dépendante des conditions limites. Et donc, pour ça, on a vraiment fortement milité pour que des études de sol soient faites. Et donc, il a été développé une méthodologie qui permet de caractériser le sol et ou le sous-sol jusqu'où on veut aller en utilisant des observations existantes, des méthodes non destructives à base de magnétisme ou de résistivité qui permettent de définir des lieux les plus adaptés pour faire les mesures de perméabilité, pour mesurer les vitesses d'infiltration et avoir une meilleure connaissance du potentiel d'infiltration du système. Et donc, c'est à partir de là qu'on a possibilité de définir un débit pour une surface donnée. Et en même temps, sur l'ensemble du projet, on a pu confirmer la pertinence de l'alternance de l'alimentation et donc de travailler sur plusieurs plateaux, plutôt sur un seul plateau. On a pu quantifier l'effet de la dispersion des argiles et de voir l'effet du système racinaire qui contribue à mobiliser un plus grand volume de sol. En résultats généraux, en termes de sur nos trois compartiments, si on regarde les débits, la perte par évaporation est négligeable. Elle se compte en millimètres jour. Et donc, elle est équivalente à celle de l'évapotranspiration.
Tu peux accélérer un tout petit peu. Je suis désolée de te presser, mais je n'aimerais pas couper ton intervention. Donc,
voilà, mais j'ai presque fini.
Oui, je sais.
J'ai presque fini. Et donc, du coup, c'est effectivement dans le sol, même si on a des perméabilités qui se comptent en millimètres heure dans le sol, on a déjà un facteur 24 par rapport à la mesure dont je vous ai parlé en millimètres jour. Donc, effectivement, c'est dans les sols qu'on peut infiltrer les débits les plus importants, sous réserve de, j'y viens. Donc, au niveau des résultats, on a des résultats importants au niveau sanitaire. On peut arriver à avoir une bonne désabattement pertinent au niveau sanitaire, sous réserve d'un minimum de conditions. Pour répondre peut-être un peu à la question précédente qu'avait posée justement Yves, on voit qu'on a une formation, une bonne sédimentation des fractions particulaires. Et donc, ça veut dire aussi que tous les polluants qui sont liés aux particules sont retenus. Et on a eu un peu de dégradation biologique. Au niveau du végétal, l'impact sur le végétal, des concentrations sur le végétal est très faible. On a un rôle négatif vis-à-vis de la présence des UV qui, eux, sont importants pour dégrader les micropolluants et le sanitaire. On a un rôle positif des racines et attention aux contraintes d'entretien. Au niveau du sol, on a encore plus de questions qu'au début du projet. C'est le lieu majeur de rétention. Mais sur quel type de sol, sur quel mécanisme, combien de temps, est-ce qu'il y a des relargages, quels sont les rythmes d'alimentation? On a vu des relargages de sol pollué. Donc aujourd'hui, au niveau du sol, effectivement, c'est le compartiment le plus pertinent, mais attention, il y a beaucoup de questions. Sur l'entretien, donc l'entretien est essentiel. Vous avez ici les premiers éléments de. On milite pour un passage hebdomadaire pour vérifier les écoulements. Pour voilà, donc nettoyage régulier des canalisations, entretien des abords, pocardage des végétaux enracinés donc à l'automne et gestion des végétaux enracinés dans les bassins et la mise en place de l'alternance. Donc il y a un premier chiffrage qui a été fait. Il faut nettoyer les ouvrages de suivi et donc réaliser des mesures de on a la possibilité de réaliser des mesures de qualité sur la qualité. La récolte des végétaux envahissants est une véritable. Enfin, les végétaux envahissants flottants, c'est une plaie. Donc, il faut absolument les évacuer. C'est une plaie pourquoi? Parce que c'est un frein à la pénétration des UV, que ça génère des conditions anaérobies qui sont catastrophiques pour le traitement et pour le milieu. Il faut piéger les ragondeurs. Et on peut être amené. On doit curer les dépôts. Et donc, après chaque événement de dysfonctionnement des ouvrages d'amont, il faut curer les dépôts et on peut en profiter pour reprofiler les berges. En conclusion, et c'est mentionné sous cette forme-là dans le rapport, donc si les objectifs de la ZRV sont clairement identifiés, si les études préalables qualifiant le sol sont réalisés les résultats favorables, donc entre autres si on a des sols qui sont susceptibles d'être des sols pollués ou des sols de remblai, il faut faire attention. Si la conception permet l'entretien, si l'entretien est réalisé, si les ouvrages amont fonctionnent, alors la ZRV peut contribuer à améliorer le milieu superficiel hydraulique. Pour mettre un petit bémol sur les nature-based solutions. Donc, je continue avec le document de l'ONU et donc qui nous dit que l'adoption des SFN devient nécessaire non seulement pour améliorer les résultats en matière de gestion de l'eau et de la sécurité hydrique. Certes, ce ne sont pas une panacée, mais elles jouent un rôle essentiel dans la construction d'un avenir meilleur, plus lumineux, plus sûr et plus équitable pour tous. Et c'est vrai que dans le développement des zones de rejet végétalisées, les industriels se sont montrés très convaincant pour aider à l'amélioration du fonctionnement des stations d'épuration, la meilleure protection des eaux de surface, et que sans base de dimensionnement, on n'arrive pas à des résultats effectivement positifs. Je vous remercie de votre attention.
Merci Catherine pour ton intervention. Je propose, vu le temps, même si c'est des questions déjà intéressantes, on va les garder pour la fin. Hein, je veux dire, j'en aurais bien rajouté une aussi sur la question de l'entretien. Et du coup,